À Paris, le travail de clarification de l'accord de Bougival continue. Après une réunion en plénière, les délégations politiques ont planché notamment sur les compétences régaliennes. En marge de ces échanges, Jean-Jacques Brault s'est exprimé sur le dossier. Selon l'ancien haut-commissaire, le dossier calédonien risque de s'inviter dans la campagne à l'élection présidentielle. Sur le territoire, la campagne de demande de permis de chasse est lancée. Les chasseurs peuvent être accompagnés dans ces démarches. Négocié depuis plus de 25 ans, l'accord du Mercosur est signé. À la clé, la création de l'une des plus importantes zones de libre-échange au monde. Dans le Pacifique, le Canada vient de se doter d'une ambassade aux îles Fidji, résultat de 55 ans de relations diplomatiques. Et puis du tennis avec l'Open d'Australie qui a débuté ce dimanche à Melbourne, une émulation qui se ressent jusqu'à Nouméa, au tournoi senior du 6e kilomètre. Bonjour à tous, soyez les bienvenus. L'actualité institutionnelle à la une, encore une fois ce week-end, le travail de clarification de l'accord de Bougival est lancé. Les délégations politiques ont participé à une première réunion plénière, c'était à l'Élysée, dans la nuit de vendredi à samedi pour nous, Michael Genesky.
Emmanuel Macron avait notamment déclaré « Il nous faut parvenir à un accord pour sortir de l'incertitude déjà trop longue. Il faut le faire avec respect, bonne volonté, mais aussi avec un certain volontarisme. » Le président de la République avait donc fixé le cap de ces trois jours de discussion qui se sont ouverts à Paris pour permettre aux délégations calédoniennes et à l'État de préciser certains points de l'accord de Bougival. Il ne s'agit pas de remettre en cause les points essentiels et les équilibres de l'accord de Bougival, mais d'avancer dans leur clarification. Emmanuel Macron avait aussi déclaré vouloir avancer sans passage en force, mais sans paralysie. Le chef de l'État, qui était entouré par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale et par la ministre des Outre-mer. Désormais, les travaux se poursuivent au ministère des Outre-mer à Paris. Très peu d'informations qui filtrent pour l'heure sur le contenu des échanges dans la capitale. On sait simplement que la nuit dernière, il devait travailler notamment à l'association des Calédoniens à l'exercice des compétences régaliennes.
Et en attendant la fin de ces échanges à Paris, l'ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie, Jean-Jacques Brault, s'est exprimé sur le dossier calédonien. Selon lui, ce dossier risque de s'inviter dans la campagne en vue de l'élection présidentielle de 2027.
Compte tenu des calendriers des élections nationales et des futures élections provinciales, il est bon malgré tout que même si cette réunion, à mon sens, ne débouchera pas sur un accord formel, mais permettra au moins des échanges. Et aussi, une chose très importante, c'est que l'opinion publique de France métropolitaine entende parler de Nouvelle-Calédonie. Le gros problème, c'est que c'est un sujet dont on reparle par intermittence, alors que c'est pour la France à la fois un espoir extraordinaire dans cette région géopolitique qu'est le Pacifique, un devoir de solidarité et de fraternité à l'égard de nos compatriotes, et que je veux bien que ce sera un des points cruciaux de l'échéance présidentielle de 2027.
Jean-Jacques Brault, ancien haut-commissaire en Nouvelle-Calédonie de 2013 à 2014, il répondait à nos confrères d'Europe 1. Sur le territoire, la campagne de demande de permis de chasse ou de renouvellement de permis de chasse est ouverte. Les chasseurs qui peuvent être accompagnés dans ces démarches en ce début d'année, Michael.
En province sud notamment, selon le code de l'environnement, le renouvellement des permis de chasse se fait en suivant soit la démarche classique avec un guichet dédié à Nouméa, au centre administratif de la province sud, ou bien sur internet, désormais depuis la plateforme NC Connect. En cas de problème, la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie se tient à la disposition des chasseurs qui en auraient besoin. La structure veille surtout à une bonne pratique de la chasse, comme l'explique son président André Réveillant.
Pour le permis de chasser à la province sud, maintenant ils ont un lien internet. Surtout pour les gens qui prennent leur permis la première fois, les renouvellements se font aussi en ligne ou directement à la province. Pour ça, il leur faut l'assurance, c'est-à-dire donc l'assurance, ils peuvent s'adresser en prenant la carte de la Fédé dans les armureries ou au bureau de la Fédé. Sinon, ils peuvent s'adresser directement à une assurance. Avec la Fédé, quand vous prenez votre carte, vous pouvez faire une formation sécurité. C'est reconnu par l'ONCFS, hein. C'est gratuit. Tous les gens qui viennent, en général, sont très contents parce qu'ils disent qu'on découvre beaucoup de choses dans le comportement pour la chasse et la sécurité. Parce qu'il y a beaucoup trop d'erreurs commises à la chasse dangereuses. La Fédé peut aider les gens à faire leur demande de permis de chasser. On est là pour aider.
La Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie a notamment observé un afflux beaucoup plus important en ce début d'année 2026 que lors des années précédentes pour des adhésions afin de disposer notamment d'une assurance pour la chasse.
Pour le mois de janvier, on a déjà beaucoup d'adhésions qui ont été prises, quoi, d'assurance. Beaucoup plus de personnes qui veulent faire leur permis de chasser. Parce que, bon, il faut savoir que pour transporter un fusil dans une voiture, il faut avoir soit un permis de chasser, soit une licence de tir. Mais le permis de chasser permet de transporter la voiture sur tout le territoire avec la licence de tir, que entre votre domicile et le stand de tir. Ce phénomène, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont acheté des armes, déjà. Comme il y a beaucoup de forces de l'ordre, beaucoup de contrôles, les gens se mettent plus en règle. De toute façon, pour acheter un fusil ou des munitions, il vous faut un permis de chasser. Pour un mois de janvier, on a déjà vendu pas mal d'assurances. Plus que les années précédentes, où les gens se manifestaient surtout au mois de mars à cause de la chasse aux roussettes et notamment au mois d'avril.
André Réveillon, le président de la Fédération de la faune et de la chasse de Nouvelle-Calédonie. À titre indicatif, l'année dernière, la Fédération recensait près de 5000 adhérents contre un peu moins de 4000 les années précédentes. La Fédération de la faune et de la chasse et la province sud qui se tiennent donc à la disposition des chasseurs pour accompagner dans les démarches de demande ou de renouvellement de permis de chasse en ce début d'année 2026.
La chasse pour certains, la piscine pour d'autres. Cela fait une semaine maintenant que la chaleur est écrasante sur le territoire. Les Calédoniens se rafraîchissent donc comme ils le peuvent, à la plage, à la rivière ou bien, comme je le disais, à la piscine. À Dumbéa, les enfants ont profité du toboggan gratuit ce matin, Charlotte Coulson.
Oui, le ciel s'est légèrement couvert aujourd'hui, mais les températures, elles, ne redescendent quasiment pas. Jusqu'à 34 degrés sont prévus sur la côte ouest cet après-midi. Alors, pour contrer les fortes chaleurs, certaines personnes choisissent de passer leur dimanche à la piscine. À Coutio, le toboggan du centre aquatique Guy Verlaguer a fait des heureux ce matin.
On est en train de faire le toboggan. En fait, c'est cool parce qu'on profite de la piscine et on essaye de se faire des amis.
C'est génial. On profite ici en même temps parce que à la piscine de Pointe-Bout, à Conné, on ne va pas tout le temps. Et à la maison, on n'a pas de piscine.
Alors, je suis avec ma fille Capsi qui a 2 ans et demi et qui s'éclate. Non, c'était la première fois et un peu d'appréhension sur la première descente. Et maintenant, nickel. Elle gère. C'était une petite surprise parce qu'effectivement, on ne le savait pas et on en profite pleinement. Super idée de la ville de Dumbéa. Merci à elle.
Ah ben, on est venu profiter de la piscine parce qu'on n'a pas de piscine chez nous. Donc voilà, avec la chaleur, c'est pas évident. Et on a vu sur leur page Facebook en fait, que tous les dimanches jusqu'au mois de février, le toboggan était gratuit pour les enfants. Donc voilà, on est venu en profiter.
Et vous l'avez entendu, l'accès au toboggan est gratuit tous les dimanches des vacances scolaires, donc jusqu'au 8 février. Une initiative de la ville pour aider les familles, selon le chef de bassin Yann Duna.
L'idée, c'est de donner un petit coup de pouce aux familles pour qu'ils puissent profiter pleinement du centre aquatique. Cette semaine, il a fait particulièrement chaud. Les bassins ont été bien remplis. La température de l'eau, du coup, est bien chaude aussi. On est au-dessus des 30 degrés. Mais bon, ça permet quand même de se rafraîchir. Ça fait du bien. Et puis, le cadre est quand même bien sympathique. Et on passe du bon temps au centre aquatique.
La piscine de Coutchot est ouverte tous les jours pendant les vacances scolaires, l'après-midi, sauf le dimanche où elle est ouverte de 8h jusqu'à midi.
Dernier jour de fête à Lifou avec l'événement Luechila 3000 qui a débuté jeudi à la tribu de Luechila. Un vendredi consacré aux officiels et aux familles, puis un samedi dédié au patrimoine, à l'environnement et à la culture. Place ce dimanche au partage. Hélène Lallier, la secrétaire de l'association Luechila 3000.
Comme temps fort, le bougna géant à 11h, préparé par les jeunes de la tribu, mis au four hier soir, déterré aux alentours de 11h30 midi. Un repas gratuit, un repas que l'on veut fraternel, accompagné par une dégustation de poissons grillés, là encore proposé par l'association Wachestive. Cet après-midi, normalement, si le temps ne complique pas tout, pareil, on aura encore un plateau de danse. S'ensuit ensuite une petite animation musicale pour clôturer cette édition. On va prendre le temps de tirer un bilan, mais de manière humaine, c'est un bilan positif.
La fête du côté de Lifou avec Luechila 3000 qui se terminera donc ce soir. La fête est tout de même prévue jusqu'à minuit. Il est 12h10, première pause dans ce journal. On verra toute l'actualité nationale et internationale juste après.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1 500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
La suite de votre journal avec Léo Fichou.
L'accord était négocié depuis plus de 25 ans. Le voilà conclu. Malgré l'opposition de la France, les quatre pays du Mercosur, Argentine, Brésil, Paraguay, Uruguay et l'Union européenne ont signé ce samedi après-midi au Paraguay un traité historique avec à la clé la création de l'une des plus importantes zones de libre-échange au monde. Ensemble, les deux continents représentent 30% du PIB mondial. Ils vont pouvoir commercer et commencer sans droit de douane dans 90% des échanges. L'Union européenne vendra donc ses automobiles, machines, produits chimiques, vins et spiritueux au pays du Mercosur, qui lui exportera entre autres bœuf, volaille, sucre, riz, miel et soja sud-américain. Tout cela va créer de l'emploi et de la prospérité, a déclaré la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.
Nous sommes en train de créer un marché de 700 millions de consommateurs. Ceci est phénoménal. Cet accord envoie un puissant message au reste du monde. Nous optons pour un commerce juste plutôt que des droits de douane, pour un partenariat productif à long terme plutôt que l'isolement.
Et même si cette signature ne veut pas dire une entrée immédiate en vigueur, les agriculteurs, majoritairement opposés à ce traité de libre-échange, semblent désormais partagés entre résignation et poursuite de la mobilisation. Entre 4 et 5 000 agriculteurs européens sont attendus mardi à Strasbourg. Il y a donc d'un côté les agriculteurs bien établis, comme je le disais, et puis il y a la nouvelle génération. Là aussi, l'incertitude prime autant, voire davantage, entre la passion du métier et la peur de la précarité. Beaucoup s'interrogent, vaut-il encore le coup de se lancer ? Illustration avec Maxence, originaire du Cher et étudiant agricole en BTS production animale. Il s'est confié au micro de Romy Azoulay pour Europe 1.
À 19 ans, Maxence veut lancer son élevage de vaches laitières dès l'été prochain, malgré les avertissements de son père agriculteur qui connaît bien la dure réalité du métier.
Mon père m'a toujours dit, surtout si tu veux faire autre chose que l'agricole, c'est tant mieux. Il sait me mettre en garde quand tu vois ce que ça te rapporte et au prix que tu le payes, faut qu'il y ait quelque chose à la fin. Et travailler à perte, il l'a fait pendant des années, il le fait encore maintenant. Hein. C'est pas possible, c'est plus une vie.
Maxence est passionné par l'agriculture, mais pas question de reproduire ce schéma. Il ne veut pas travailler 15 heures par jour pour finir dans le rouge à la fin du mois.
Pour moi, c'est le bon choix parce que c'est une passion. Mais j'ai envie d'avoir une vie à côté. C'est pas parce que je suis agriculteur que je dois plus voyager, que je dois plus avoir de semaines de vacances.
Il reconnaît avoir peur de l'échec, mais pour lui, son métier est indispensable et ne peut pas disparaître.
Que certaines productions disparaissent parce que réchauffement climatique, ça je peux l'entendre, mais tout le reste, enfin, je vois pas comment on peut réduire le nombre d'exploitants tout en ayant une souveraineté alimentaire respectée.
Tout à la fois patron, comptable, vétérinaire, pour nourrir la France, comme il dit, il sait qu'il devra devenir un vrai couteau suisse.
Romy Azoulay pour Europe 1. À l'étranger, Donald Trump à l'offensive pour tenter de faire plier les Européens sur le Groenland. Il promet d'appliquer une vague de droits de douane de plus en plus élevés à 8 pays européens, et notamment la France. Des droits de douane imposés jusqu'à la vente totale du Groenland. C'est ce que dit en tout cas le président américain Wilfried de Villers pour Europe 1.
Dès le 1er février, dans deux semaines exactement, la France, le Danemark, la Suède, la Norvège, l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ainsi que la Finlande se verront imposer 10% de droits de douane sur toutes les marchandises qu'ils exportent vers les États-Unis et ils passeront à 25% le 1er juin si aucun accord n'a été trouvé. Pour justifier ces menaces, Donald Trump affirme que ces pays européens se livrent à un jeu dangereux après qu'ils ont tous envoyé des soldats sur le territoire arctique ces derniers jours, façon de signifier une présence présence européenne sur place. Les réactions européennes, justement, n'ont pas tardé. Emmanuel Macron déplore des menaces tarifaires inacceptables. Elles sont totalement erronées, estime le Premier ministre britannique Keir Starmer. La Commission européenne évoque pour sa part une spirale dangereuse vers le bas. Et au moment où Donald Trump annonçait ses nouveaux droits de douane, des milliers de personnes étaient rassemblées à Nuuk, capitale du Groenland, et à Copenhague pour dénoncer les ambitions territoriales américaines.
Donald Trump vivement attaqué en parallèle par le guide suprême iranien. Il accuse le président américain d'être coupable de la mort des manifestants opposés au régime. Ali Khamenei affirme que le projet des États-Unis en Iran consiste à dominer militairement, politiquement et économiquement son pays. Dans le Pacifique, à présent, le Canada vient de se doter d'une ambassade aux îles Fidji, avec lesquelles il entretient des relations diplomatiques depuis déjà 55 ans. Les détails avec notre correspondant Jean-Pierre Zajac.
Le ministre fidjien par intérim des Affaires étrangères, Sakiasi Dintoka, qui assistait à l'ouverture officielle de l'ambassade, a souligné que son établissement, je cite, témoigne de l'engagement fort et croissant du Canada aux îles Fidji et dans l'ensemble de la région Pacifique. Cette initiative, a-t-il poursuivi, devrait renforcer les liens diplomatiques déjà existants et élargir la coopération dans les domaines clés tels que le commerce, l'éducation et le développement. Ce sont là des priorités essentielles pour les îles Fidji, mais aussi pour l'ensemble de la communauté du Pacifique, a-t-il estimé, avant d'accueillir officiellement Jennifer Lalonde, première ambassadrice en poste du Canada aux îles Fidji. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Midi 17, on marque une seconde pause dans ce journal, on parlera sport juste après.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'église du Vœu, 30 51 30.
Jusqu'au 6 février, gagnez un séjour enchanteur à l'hôtel Coulnoué Village. Logez 5 nuits en bungalow premium avec vue mer, petit déjeuner et buffet du soir pour deux personnes. Profitez de la mer, de la piscine ainsi que de nombreuses activités sur place. Un cadeau d'une valeur de 136 000 francs. Pour jouer, c'est facile, envoyez chance au 40-20. L'hôtel Coulnoué Village vous accueille toute l'année dans un cadre idyllique en face de la poule de Yengen. Toutes les actus sur le Facebook de l'hôtel. Alors pour décompresser, envoyez chance au 40-20. Tirage au sort le vendredi 6 février à 14h, 371 francs par SMS. Et sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
La fin de votre journal Le Sport avec Léo Fichou.
Du football avec la 18e journée de Ligue 1, l'OM a engrangé de la confiance avec un large succès sur Angers, Mickaël.
Et les Marseillais, oui, qui l'ont remporté sur le score sans appel de 5 buts à 2. Match tout en maîtrise de l'Olympique de Marseille qui se prépare à une semaine cruciale. Le duel contre Liverpool en Ligue des Champions, puis le leader du championnat de France, le RC Lens, le week-end prochain. Les Lensois qui, justement, de leur côté, ont gardé leur bonne allure avec une victoire sur Auxerre 1-0, 10e victoire consécutive des Soins et Or, toute compétition confondue. Et il repasse surtout, une fois de plus, devant le Paris Saint-Germain au classement pour garder la tête de la Ligue 1. Enfin, on signalera que Toulouse a fait forte impression en dominant Nice 5 buts à 1. Hier, le PSG avait battu Lille 3-0. Monaco s'était incliné contre Lorient 3 buts à 1. À suivre encore ce soir et demain matin, les matchs Strasbourg-Metz, Rennes-Le Havre, Nantes-Paris FC et enfin Lyon-Brest en clôture de cette 18e journée.
Foot toujours avec la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui se dit disputera demain, ce sera dès 6h heure de Nouméa, Maroc-Sénégal, c'est l'affiche donc de cette finale de la CAN. Aujourd'hui, les Nigérians ont gagné la petite finale contre l'Égypte aux tirs au but, 0-0 à la fin du temps réglementaire, 4 tirs réussis à 2 en faveur du Nigeria. On passe au rugby avec la suite de la dernière journée des phases de poule de la Champions Cup.
Et déjà des clubs français qui sont assurés de jouer les huitièmes de finale. C'est le cas du Stade Toulousain qui avait une obligation de résultat positif. Avec déjà deux défaites au compteur dans la compétition, Toulouse a remis les pendules à l'heure en l'emportant largement sur les Anglais des Sails, 77-7. Pourtant, Antoine Dupont, le capitaine du Stade Toulousain, reconnaît que tout n'a pas été parfait dans ce début de Champions Cup.
On va pas se mentir, même si on finit bien
Aujourd'hui, on est avec deux défaites. On prendra ce qui tombe en face de nous, mais évidemment que c'est mitigé. Mais on peut pas revenir en arrière sur ce qu'on a eu, donc ce qui s'est passé. J'espère qu'on en aura pris les leçons pour la suite.
Les Toulousains devront attendre le résultat du match entre Glasgow et les Saracens pour savoir si leur huitième de finale se jouera à l'extérieur ou non. Dans la même poule, Clermont a subi une dernière défaite contre les Sharks de Durban 50-12 et termine bon dernier de ce groupe. Dans la poule 2, le RC Toulon l'a emporté à Gloucester 31-14. Castres a réussi à décrocher une victoire importante contre le Munster 31-29. Les Castrais, comme les Toulonnais, poursuivront l'aventure. La dernière rencontre entre le Stade Rochelais et les Harlequins scellera le classement final dans cette poule. Dans la poule 3 à présent, l'Aviron Bayonnais s'est incliné à domicile contre le Leinster 22-13. Et puis on rappelle que l'Union Bordeaux-Bègles est aussi assurée de jouer la suite de l'aventure. Dans la poule 4, il reste pourtant à disputer le choc pour la première place entre Bristol et l'UBB demain. La section paloise espère encore être reversée en challenge européen après sa défaite contre la franchise sud-africaine des Blue Bulls hier sur le score de 26-24.
Sur les terrains de handball à présent, l'équipe de France est d'ores et déjà qualifiée pour le tour principal de l'Euro, messieurs.
Avec une nouvelle victoire écrasante des Bleus qui n'ont laissé aucune chance à l'Ukraine. Succès 46-26. Pour rappel, les tricolores avaient battu la République tchèque 42-28 lors du premier match. Prochain rendez-vous contre la Norvège mardi matin.
Les sports mécaniques avec le dénouement sur le Dakar 2026.
La fin de l'aventure sur les pistes d'Arabie Saoudite dans la catégorie auto. C'est le Qatari Nasser Al Attiyah qui a une nouvelle fois remporté l'épreuve en offrant au passage à Dacia son premier titre sur ce Dakar. Sur cette 13e étape, c'est Mathias Ekström qui s'est imposé juste devant Sébastien Loeb. Le Français qui termine lui ce rallye raid au pied du podium, 4e du classement général. On l'écoute.
On n'a pas de regret à avoir, on a essayé. Ekström, on sait que dans ce type de spécial sprint, il est redoutable, même sur tout le rallye, il l'a été. Donc on a essayé, on fait une belle spéciale, pas trop d'erreurs, mais bon, ça ne suffit pas. Mais globalement, voilà, on ne peut pas regretter grand-chose. D'être à l'arrivée, 4e, c'est pas si mal. De toute façon, la victoire n'était pas jouable depuis quelques temps, depuis quelques jours, donc bon.
Dans la catégorie moto maintenant, Luciano Benavides a terminé 2e de l'ultime étape derrière l'Espagnol Edgar Canet et il a remporté au passage la 48e édition du Dakar. L'Argentin qui a coiffé au poteau au classement général l'Américain Ricky Brabec, leader avant la dernière journée de course. Adrien Van Beveren, le meilleur Français, a terminé 6e du classement général moto.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Le sport dans le Pacifique avec du football et les Calédoniens de Tahiti United qui jouent leur premier match de l'OFC Pro League.
Oui, nos trois représentants, Germain Aiwegene, Potin Poma et Joseph Atale, qui ont débuté comme titulaires sous les couleurs donc du Tahiti United, la franchise polynésienne, pour défier les Australiens du South Melbourne FC. Duel de haut niveau sur la pelouse mythique de l'Eden Park d'Auckland en Nouvelle-Zélande. Le score est de 1 but partout après 50 minutes de jeu. Le club basé à Tahiti avait pris l'avantage en première période. Ouverture du score signé sur un beau coup franc Manoa Chan, 35e minute de jeu. Une feinte sur coup de pied arrêté qui a parfaitement fonctionné pour tromper la vigilance du gardien australien. Mais l'équipe de Melbourne a égalisé dès le retour des vestiaires. Un but partout donc et tout reste à faire. Alors qu'il reste encore une quarantaine de minutes à jouer dans ce premier match de la compétition pour l'équipe tahitienne où évoluent nos trois Calédoniens. On signalera qu'hier, dans un duel 100% néo-zélandais, Auckland FC a écrasé le South Island United 3-0 et le Vanuatu United et les Fidjiens de Bula ont fait match nul, 2 buts partout.
On reste dans la région avec du tennis et le début ce dimanche de l'Open d'Australie.
Ah, ça y est, c'est parti pour ce premier tournoi du Grand Chelem de l'année. Les matchs lancés dans le tableau féminin. Tout d'abord, une tricolore déjà en lice, Léolia Jean-Jean qui affronte la grecque Maria Sakkari. À venir encore le match d'Elsa Jacquemot contre l'ukrainienne Marta Kotsiuk. Ce soir, Sarah Rakotomanga aura forte affaire contre la tête de série numéro 1, la russe Arina Sabalenka. Chez les messieurs, on suivra dès cet après-midi côté français Corentin Moutet contre l'australien Tristan Schulkeit. Kyrian Jacquet retrouvera lui l'américain Emilio Nava. Dans l'après-midi toujours, Benjamin Bonzi sera opposé au britannique Cameron Norrie. Côté tête d'affiche, la soirée se terminera en beauté avec l'entrée en lice de Carlos Alcaraz, l'espagnol numéro 1 mondial, qui sera opposé à l'australien Adam Walton pour la première nocturne sur la Rod Laver Arena. Arena. Et je rappelle qu'Arthur Géa, récent vainqueur du Challenger de Nouvelle-Calédonie, seul tricolore à être sorti des qualifications, retrouvera demain dans le premier tour le Tchèque Jiří Lehecka, actuellement 19e joueur mondial.
Du tennis aussi en Calédonie. L'émulation après la 40-15aine de la petite balle jaune à Nouméa se ressent toujours. C'est à l'occasion du tournoi senior de l'Est, 6e kilomètre.
Après avoir suivi de grands champions lors du BNC Catherine Bonnet, puis sur le BNC Tennis Open, sur les cours du Wentoro, les fans avaient hâte de retrouver le plaisir de s'affronter, toutes catégories d'âge confondues, comme par exemple sur le TMC Simple Senior 50+, qui se déroule depuis vendredi au complexe de la Veuve du 6e kilomètre.
Quand on aime ça, on se fait plaisir. Télé, sur place, sur le terrain, on adore ça. Le tennis, ça reste un jeu pour moi, mais pour d'autres, oui, c'est plus compétition.
Nous, on est là pour déjà jouer entre copains, se faire plaisir. Certes, on est toujours là pour essayer de remporter des matchs, parce que c'est ce qui nous porte. Hein. Là, on est sur un tournoi. C'est plutôt les anciens, c'est les seniors qui jouent. Donc, c'est avant tout le plaisir pour nous et le plaisir de jouer ensemble.
C'est pas comparable au niveau du niveau, mais par contre, les vieux, je trouve qu'ils assurent bien ici et c'est très sympa comme ambiance. Moi, je viens de la brousse et je suis très content de croiser des copains qui jouent très bien. On s'amuse bien, malgré la chaleur. C'est difficile, mais il y a la bonne ambiance et la bonne humeur.
Vous êtes de quel club, vous ?
Poindimier. Surtout que les terrains ici sont secs, contrairement à Poindimier où c'est bien mouillé.
Moi, j'ai gagné, c'est rare, mais depuis 2 ans que je joue au tennis, j'avais jamais gagné un match. Et là, j'ai gagné mon premier match. Donc maintenant, je peux perdre, c'est bon. Je dois payer la tournée de bière, déjà.
Arthur Géa n'a qu'à bien se tenir.
Oui, exactement.
Voilà, un plaisir avant tout de continuer de pratiquer le tennis avec un regard évidemment sur les meilleurs mondiaux qui sont à Melbourne. Franck Lecomte est le président de la section tennis de la 16e kilomètre.
C'est une opportunité pour tous les anciens de faire un tournoi, de se retrouver. Puis après, à l'issue, on fait un petit repas sympathique entre joueurs. Même si on a été adversaire, il y a l'esprit sportif, mais il y a aussi l'esprit de la convivialité et c'est ça qu'on fait à la S6e. Une belle leçon de sport santé, ça permet à tout le monde de remettre les organismes un petit peu en fonction. Quand on joue comme ça, on fait quand même 4 à 5 matchs dans le week-end. Depuis vendredi soir, 16h, on a commencé, jusqu'à ce soir, 19h. Donc après, à l'issue, on fera une petite cérémonie pour remercier tous nos sponsors et remercier aussi tous les joueurs d'avoir participé. Ça motive les joueurs, hein, de toute façon, parce que quand il y a eu le tournoi, justement, plus après celui d'Australie, et ici, venir ici, 24, c'est la première fois qu'on a autant de joueurs en simple pour la S6e, les plus de 50 ans. J'ai fait ce tournoi parce qu'on a eu de la demande. Dans 3 semaines, j'en profite, on refait aussi encore un double mix de non classés à 30. Donc c'est pour les joueurs qui veulent venir aussi, pourront venir aussi dans 3 semaines.
Un tournoi pour les seniors plus de 50 ans qui se poursuit donc jusqu'à ce soir avec 24 participants au complexe sportif de la Veuve du 6e kilomètre.